Vous écoutez On lit pour vous.
Le / MeToo du racisme. Une chronique de Rima El-Khoury parue le 17 juin 2026 dans La Presse. En commettant la crise qui secoue la police à la suite des graves allégations de comportement raciste à Montréal-Nord, le chef Fadi Daguerre a fait un parallèle avec le mouvement MeToo. Lorsque vous commencez à dénoncer et qu'il y a un exemple qui est montré et qu'il y a des conséquences, tout à coup, les gens commencent à parler, a expliqué samedi le chef du service de police de la Ville de Montréal, SPVM, en disant s'attendre à un tsunami de dénonciations. Vrai, on peut voir un certain nombre de similitudes entre les dénonciations des violences sexuelles du mouvement « Moi aussi » et les dénonciations des violences policières racistes. Dans les deux cas, on parle d'un problème systémique. Dans les deux cas, il y a une forte culture du silence et de l'impunité qui permet au problème de perdurer. Dans les deux cas, les victimes qui osent dénoncer se butent trop souvent à des mythes et des stéréotypes qui font en sorte qu'elles ne sont pas crues. Dans les deux cas, il y a une confiance rompue qu'il faut rétablir de toute urgence. Dans les deux cas, on observe une tendance à réduire le problème à des cas isolés. Not all men, pas tous les hommes, dit-on en réponse aux dénonciations de violences sexuelles. Pas tous les policiers, dit-on en réaction aux dénonciations de violences policières, en reprenant la fameuse métaphore des pommes pourries. Dans le cas qui nous concerne, devant la gravité des actes racistes allégués ayant mené au démantèlement d'une équipe de patrouilleurs montréalais, le gouvernement caquiste concède que l'on ne parle pas de quelques pommes, mais bien d'un panier pourri au complet. Mais ce qui est inquiétant, c'est que l'on refuse encore obstinément d'examiner le sol contaminé du verger. Pas question de reconnaître la nature systémique du problème, répète-t-on. Pour rétablir la confiance, on n'aura toutefois pas d'autre choix que de sortir du déni, comme on l'a fait dans la foulée du mouvement « Moi aussi ». Comment? Comme Yves Boisvert et Fabrice Ville, je crois qu'une enquête publique indépendante s'impose. C'est aussi l'avis de Massimiliano Mulone, professeur agrégé de criminologie à l'Université de Montréal et co-auteur d'un rapport alarmant sur les interpellations policières et le profilage racial au SPVM, dont la seule et unique recommandation a été ignoré. Les problèmes de discrimination raciale dans les pratiques policières ne sont pas circonscrits à quelques individus ou à un quartier. L'enjeu central, c'est la nature systémique du problème. D'où l'utilité de prendre un pas de recul pour analyser la chose en profondeur. Une commission d'enquête publique qui ne porterait pas juste sur le poste de quartier 39 et sur cette équipe, permettrait une transparence. Cela permettrait peut-être aussi de libérer une certaine parole, estime le chercheur. Il rappelle au passage que le quartier qui présente les plus importantes disparités de traitement en matière d'interpellation n'est pas Montréal-Nord, mais bien le plateau Mont-Royal. une personne noire y court 15 fois plus de risques de se faire interpeller qu'une personne blanche. Au-delà de la libération de la parole, ce qui importe surtout, comme avec le mouvement MeToo, c'est que cette parole soit enfin entendue et mène à des actions concrètes. Pour avoir couvert l'enquête sur la mort de Freddy Villanueva et ses lendemains tissés de déni, j'avoue avoir été choquée, mais malheureusement pas surprise par les allégations graves rendues publiques vendredi soir. Tous ceux qui subissent du profilage racial, eux-mêmes, ou en sont témoins, n'ont pas été surpris non plus. Tous ceux qui sont au fait de la banalisation des idées d'extrême droite savent que le Québec n'est pas à l'abri de telles dérives. Ça fait des années que les gens dénoncent les pratiques policières discriminatoires. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose. Tout comme on n'a pas fait grand-chose de notre rapport de recherche. Notre recommandation a juste été jetée aux oubliettes, déplore Massimiliano Mulone, qui a co-signé le rapport « Interpellation policière et profilage racial » rendu public il y a 3 ans. Dans ce rapport de 285 pages, les chercheurs, au terme de plus de 2 ans de recherche, recommandaient en priorité une seule chose au SPVM pour lutter contre les discriminations dans les interventions policières. Cesser toute interpellation qui ne soit pas justifiée par l'enquête d'un crime spécifique ou par le soupçon raisonnable d'une activité illégale. Pourquoi? Parce que ces interpellations arbitraires produisent des discriminations raciales. Elles ciblent, de manière injuste et disproportionnée, des minorités racisées. Les jeunes hommes noirs et arabes de 15 à 34 ans sont particulièrement visés. Cela crée une relation de méfiance et de mépris qui mine la sécurité des communautés visées et décourage ceux qui ont goûté à un tel traitement d'appeler les policiers lorsqu'ils sont en danger. Loin de réduire la criminalité, cela risque au contraire de l'augmenter. En 2019, la Nouvelle-Écosse a instauré un tel moratoire à la suite d'un rapport de recherche qui faisait le même constat. Au SPVM, bien que les chercheurs estiment, analyse rigoureuse à l'appui, qu'il s'agit de la seule vraie façon de changer les choses, on a rejeté la recommandation faite en 2023. Le chef Fadi Daguerre avait expliqué vouloir résoudre le problème plutôt qu'annoncer une mesure qu'il estimait symbolique. Même si les chercheurs ont fait la preuve que l'interpellation sans motif est une pratique discriminatoire dont les conséquences n'ont rien de symbolique. Ils continuaient de faire le pari qu'il était possible de maintenir la pratique tout en veillant à ce qu'elle soit respectueuse des droits et libertés de toutes les populations. En dépit des bonnes intentions du chef de police et des efforts louables consentis pour tenter de transformer la culture policière, ce qui s'est passé à Montréal-Nord nous rappelle que ce pari à long terme est visiblement loin d'être gagné. Peut-être le sera-t-il un jour. Mais d'ici là, le SPVM ne peut pas continuer à utiliser un outil qui, à l'heure actuelle, perpétue des pratiques que l'on sait discriminatoires. Il ne faut jamais gaspiller une crise, a dit le chef du SPVM. En attendant l'enquête publique, on ne peut qu'espérer que cette crise serve de levier pour rectifier le tir dès maintenant. C'était le parallèle MeToo du racisme. Une chronique de Rima El-Khoury, paru le 17 juin 2026 dans La Presse.
Oubliez Mars. Cette lune de Saturne pourrait cacher tout ce qu'il faut pour bâtir une colonie humaine. Un texte de Gaspard Salomon, publié le 21 juin 2026 dans Futura Science. Des chercheurs de la NASA ont dressé l'inventaire détaillé des ressources naturelles de Titan, l'une des lunes de Saturne. Leur conclusion est frappante. Cette lune glacée posséderait les ingrédients nécessaires à la production de nourriture, de carburant et de matériaux au point de devenir un candidat crédible pour de futures bases humaines dans le système solaire externe. À plus de 1,4 milliard de kilomètres du Soleil, Titan apparaît comme l'un des mondes les plus étranges du système solaire. Cette lune de Saturne est la seule à posséder une atmosphère dense, plus épaisse encore que celle de la Terre. À sa surface, les températures chutent jusqu'à moins 179 degrés Celsius, 94 K, et les rivières, les lacs ou les mers ne sont pas remplis d'eau, mais de méthane et d'éthane liquide. Depuis les observations de la sonde Cassini et l'atterrissage du module Huygens en 2005, Titan fascine les planétologues. Son atmosphère riche en azote, sa chimie organique complexe et ses immenses réserves d'hydrocarbures en font un laboratoire naturel pour comprendre les conditions qui régnaient peut-être sur la Terre primitive. Mais au-delà de son intérêt scientifique, les réserves naturelles de Titan pourraient aussi présenter un atout majeur. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de Goddard Space Flight Center de la NASA s'est justement intéressée à cette question afin d'évaluer si les matières premières présentes sur Titan pourraient un jour soutenir une présence humaine durable. Un inventaire inédit des richesses de Titan. Les chercheurs ont dressé un panorama complet des ressources disponibles à la surface et dans l'atmosphère de Titan en analysant les différents composés chimiques identifiés par les missions spatiales et les observations astronomiques afin d'évaluer leur potentielle utilisation future. Cette approche s'inscrit dans le cadre de l'ISRU pour In Situ Resource Utilization, une stratégie qui consiste à exploiter les ressources disponibles sur place plutôt que de les acheminer depuis la Terre. Le résultat est plus qu'intrigant. Titan dispose en abondance de trois éléments essentiels à toute colonisation: du carbone, de l'azote et de l'oxygène. Le carbone est présent sous forme de méthane, d'éthane et d'autres hydrocarbures qui remplissent les lacs et les mers en surface. L'azote constitue près de 95% de son atmosphère. Quant à l'oxygène, il est piégé dans l'immense croûte de glace d'eau qui recouvre la Lune. Cette combinaison est particulièrement intéressante. Elle permettrait, en théorie, de produire de l'eau potable, de l'oxygène respirable, des engrais, des plastiques, des matériaux de construction et même du carburant pour fusées directement sur place. Les auteurs soulignent notamment que le méthane liquide, déjà présent en grande quantité, pourrait servir de combustible. Il suffirait simplement de produire l'oxygène nécessaire en décomposant la glace d'eau par électrolyse. Une telle capacité réduirait considérablement la quantité de matériel à transporter depuis la Terre. L'étude identifie également de nombreuses molécules organiques complexes, comme l'acétylène, le propane, le benzène ou encore la cyanure d'hydrogène, qui pourraient servir de matière première pour l'industrie chimique. Le saviez-vous? Que pourrait-on fabriquer sur Titan? L'un des aspects les plus surprenants de l'étude est la diversité des produits qui seraient théoriquement possibles de fabriquer localement. L'eau extraite de la glace pourrait servir à la consommation humaine, à l'agriculture ou à la production d'oxygène. L'azote atmosphérique permettrait de produire des engrais indispensables à la culture de végétaux dans des serres pressurisées. Plus surprenant encore, les auteurs estiment également qu'il serait possible de produire une partie de l'alimentation directement sur place. Grâce à l'eau, à l'azote et au carbone disponibles localement, des cultures sous serre ou des systèmes reposant sur des micro-organismes pourraient fournir des aliments et réduire la dépendance au ravitaillement venu de la terre. Les hydrocarbures liquides pourraient être transformés en carburant, en lubrifiant ou en plastique. Les chercheurs évoquent également la possibilité de fabriquer des polymères, des fibres synthétiques et différents matériaux destinés à la construction d'habitats. Combinées à l'impression 3D, ces ressources locales pourraient permettre de produire sur place une partie des équipements nécessaires à une colonie. En d'autres termes, Titan possède potentiellement les ingrédients chimiques nécessaires pour fabriquer non seulement du carburant et de l'air respirable, mais aussi une partie de l'infrastructure indispensable à une présence humaine durable. Un candidat sérieux pour les futures colonies spatiales? Lorsque l'on évoque la colonisation du système solaire, Mars monopolise généralement l'attention. Pourtant, les auteurs estiment que Titan possède plusieurs avantages souvent sous-estimés. Sa dense atmosphère agit d'abord comme un bouclier naturel contre une partie des rayonnements cosmiques et solaires, un problème majeur pour les futurs explorateurs martiens. La pression atmosphérique au sol y est même supérieure à celle de la Terre. Les astronautes n'auraient donc pas à vivre dans un environnement quasi vide comme sur Mars. Titan dispose aussi d'abondantes réserves de matières premières directement accessibles. Alors que la Lune ou Mars nécessiteraient souvent des opérations minières complexes pour extraire certaines ressources, Titan offre déjà à sa surface de vastes quantités d'hydrocarbures liquides. Tout n'est cependant pas idéal. Les températures extrêmes compliqueraient considérablement la vie humaine et les besoins énergétiques. L'ensoleillement y est environ 100 fois plus faible que sur Terre, ce qui limiterait fortement l'utilisation de panneaux solaires. Les chercheurs soulignent également un point faible important. Titan semble pauvre en métaux exploitables à sa surface. Une colonie devrait probablement importer une partie de ces matériaux depuis d'autres corps du système solaire. Pour les auteurs, cette étude constitue surtout une première étape. De nombreux inconnus subsistent sur la composition exacte du sous-sol et sur la facilité réelle d'extraction de ces ressources. La mission Dragonfly de la NASA, dont l'arrivée sur Titan est prévue dans les années 2030, pourrait justement fournir des données précieuses pour répondre à ces questions. Mais en attendant, Titan apparaît plus que jamais comme un monde à part. Longtemps considéré uniquement comme une curiosité scientifique, il pourrait aussi devenir un jour l'une des principales escales de l'humanité dans le système solaire externe. Un désert glacé, balayé par les pluies de méthane, mais peut-être riche de tout ce dont une civilisation spatiale aurait besoin pour s'étendre au-delà de la Terre. C'était « Oubliez Mars ». Cette lune de Saturne pourrait cacher tout ce qu'il faut pour bâtir une colonie humaine. Un texte de Gaspard Salomon, publié le 21 juin 2026 dans Futura Science.
Aliments ultra transformés. Une étude sur 2000 Australiens suggère qu'ils pourraient perturber votre concentration. Un texte de Véronique Molena, paru le 12 juin 2026 dans Futura Science. Et si votre paquet de chips quotidien brouillait un peu plus votre attention? Une étude menée auprès de plus de 2000 Australiens suggère qu'une consommation accrue d'aliments ultra transformés est associée à une baisse mesurable de la concentration, même chez les personnes qui mangent par ailleurs équilibrées. Un signal supplémentaire qui ravive les inquiétudes quant aux effets potentiels des AUT sur le cerveau. Biscuits apéro, soda, viande transformée, glace. Les aliments ultra-transformés, AUT, sont-ils néfastes pour le cerveau? Impossible de l'affirmer à ce jour. En revanche, un nombre grandissant d'études d'observation pointe qu'une consommation importante de produits transformés industriellement est associée à un risque accru de déclin cognitif, de démence, notamment Alzheimer, d'accident vasculaire cérébral, et d'autres maladies neurodégénératives, ainsi qu'à des troubles de santé mentale. Présumé coupable. Par exemple,
Une méta-analyse publiée en 2024 dans The British Medical Journal a montré qu'une consommation plus importante d'AUT était associée à un risque accru de 48 à 53% d'anxiété et de troubles mentaux courants. En 2022, une publication du JAMA Neurology montrait qu'elle pourrait favoriser le déclin cognitif chez des personnes d'âge moyen. Aujourd'hui, c'est au tour d'une équipe internationale de chercheurs australiens, Université de Monash et de Deakin, et brésiliens, Université de São Paulo, d'enfoncer à nouveau le clou. Les scientifiques ont analysé les données alimentaires et cognitives de plus de 2100 Australiens âgés de 57 ans en moyenne et ne souffrant pas de démence. Tous avaient passé des tests cognitifs standardisés, mesurant l'attention visuelle et la vitesse de traitement de l'information. Selon les calculs des chercheurs, dans l'ensemble, ils tiraient en moyenne 41% de leurs calories quotidiennes d'aliments ultra transformés. Le saviez-vous ? Soupe, soda, nouilles toutes prêtes, nuggets, crème glacée, céréales de petit déjeuner, comment savoir si un produit est ultra transformé ? AUT. Trois grands critères sont à retenir. Il contient peu d'ingrédients bruts et souvent une liste d'ingrédients anormalement longue. Il contient des ingrédients que vous n'avez pas dans votre cuisine. Amidon modifié, caséine, lactosérum, gluten, lactose, dextrose, sirop de glucose, protéines hydrolysées, maltodextrine, sirop de blé ou de maïs. Il contient des additifs, les fameux EXXX, arômes, exhausteurs de goût, édulcorants, antioxydants, stabilisants, émulsifiants, etc. La classification NOVA permet de classer les aliments en quatre grandes catégories en fonction de leur degré de transformation. Les AUT appartiennent à la catégorie NOVA 4. La base de données Open Food Fact fournit la catégorie NOVA de l'ensemble des aliments trouvés dans le commerce. Plus d'AUT égale moins de concentration. Publié dans Alzheimer and Dementia, Diagnosis, Assessment and Disease Monitoring, leurs résultats montrent que même une légère augmentation de la consommation d'aliments ultra transformés était associée à un déclin mesurable de l'attention et de la vitesse de traitement mental. Pour chaque augmentation de 10% de la consommation d'aliments ultra transformés, nous avons observé une baisse significative et mesurable de la capacité de concentration, commente Barbara Cardozo, auteure principale de l'étude et membre du département de nutrition, diététique et alimentation de l'Université Monash et du Victorian Heart Institute. Selon elle, une augmentation de 10% de la consommation d'aliments ultra transformés équivaut à peu près à ajouter un paquet de chips standard à l'alimentation quotidienne. Plus marquant, même les participants qui avaient par ailleurs une alimentation équilibrée, de type régime méditerranéen par exemple, présentaient la même corrélation entre une consommation plus importante d'aliments ultra transformés et une baisse de la concentration. C'est un point intéressant, car de nombreux chercheurs estiment que l'association entre AUT et effets nocifs sur le cerveau pourrait être liée au fait qu'en mangeant davantage d'aliments industriels, on se prive mécaniquement d'aliments de bonne qualité nutritionnelle. Pour Barbara Cardozo, ces aliments suggèrent que le lien entre l'alimentation et les fonctions cognitives va au-delà de la simple privation d'aliments reconnus comme sains et mettent en évidence des mécanismes liés au degré de transformation des aliments lui-même. Une aggravation des facteurs de risque de démence. Autre découverte. Plus la consommation d'AUT était importante, plus les facteurs de risque connus de démence, notamment l'obésité et l'hypertension artérielle, étaient élevés. Attention, cette étude n'apporte pas la preuve que les aliments ultra transformés favorisent la démence et les problèmes d'attention. Mais ils viennent une nouvelle fois appuyer l'hypothèse de leur responsabilité dans certains dysfonctionnements du cerveau. On pense en effet qu'une mauvaise qualité nutritionnelle pourrait favoriser l'inflammation et le stress oxydatif et perturber le microbiote, l'axe intestin-cerveau et les circuits cérébraux de la récompense. L'enjeu est de taille, notamment chez les enfants. L'attention est une fonction cognitive fondamentale. Elle joue un rôle crucial dans l'apprentissage, la résolution de problèmes et de nombreuses autres tâches mentales. Chez les adultes, on sait qu'une baisse des capacités d'attention est souvent un signe avant-coureur de troubles cognitifs. C'était Aliments ultra transformés, une étude sur 2000 Australiens suggère qu'il pourrait perturber votre concentration. Un texte de Véronique Molena, paru le 12 juin 2026 dans Futura Science.
Un requin inconnu capable de marcher vient d'être découvert dans des eaux peu profondes. Un texte rédigé par Cécile Breton, publié le 24 juin 2026 dans Futura Science. Une nouvelle espèce de requin vient d'être identifiée dans les eaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sa particularité, comme les autres rares requins marcheurs, il utilise ses nageoires pour se déplacer sur les récifs peu profonds, une adaptation étonnante qui intrigue les scientifiques. L'histoire débute lors d'une mission de plongée menée au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les chercheurs recherchaient une espèce déjà connue de requin marcheur lorsqu'ils sont tombés sur un petit requin aux taches inhabituelles. Après plusieurs jours de prospection, ils ont observé 11 autres individus présentant le même motif, aussi bien des adultes que des juvéniles. Les analyses génétiques ont ensuite confirmé qu'il s'agissait bien d'une espèce jusqu'alors inconnue. Baptisé Hemiscyllium dogeone, H-E-M-I-S-C-Y-L-L-I-U-M, D-U-D-G-E-O-N-A-E, ou requin marcheur de Dodgeon, en hommage à la chercheuse Christine Dodgeon. Ce nouveau venu devient la 10e espèce connue de requin marcheur. Cette découverte est d'autant plus remarquable qu'elle a été réalisée dans des eaux très peu profondes, un environnement où l'on identifie rarement de nouvelles espèces de requins. Une étonnante capacité à marcher sur les récifs. Les requins marcheurs appartiennent à un groupe de petits requins tapis vivant au plus près des récifs coralliens. Plutôt que de nager en permanence, ils utilisent leurs nageoires pectorales et pelviennes pour avancer sur le fond marin, notamment lorsque la marée basse isole certaines portions du récif. Cette adaptation leur permet de continuer à chasser malgré des niveaux d'oxygène très faibles. Certaines espèces seraient même capables de survivre plusieurs heures dans ces conditions extrêmes, même si les mécanismes biologiques impliqués restent encore mal compris. À ce jour, le requin marcheur de Dodgeon n'a été observé que sur 3 sites en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Si cette aire de répartition limitée est confirmée, l'espèce pourrait être particulièrement vulnérable à la dégradation des récifs, au changement climatique ou à la surpêche. Les chercheurs poursuivront leurs travaux afin de mieux comprendre son mode de vie et son écologie. C'était « Un requin inconnu capable de marcher vient d'être découvert dans des eaux peu profondes ». Un texte rédigé par Cécile Breton, publié le 24 juin 2026 dans Futura Science.